Avant de continuer, je regarde les questions posées.
Ça.
ce moment-là, on peut comprendre comment dans le corps mystique, ce qui a d'essentiel, c'est la contemplation. Et la charte de la contemplation, c'est le prologue de Saint Jean. Vous voyez, ce serait plus facile en discussion que ce point de vue-là. Alors je continue, parce que faut entrer dans ce mystère de Jésus. Réalisant cette nouvelle alliance. L'alliance dans son corps et dans son sang. L'alliance dans le sacrifice de la croix. On aimerait que l'Esprit Saint nous fasse comprendre pleinement l'intention du Christ à la scène. On peut la découvrir, l'intention profonde du Christ qui réalise ce mystère pour la première fois avant la croix. Il y a le geste, c'est du reste magnifique dans sa simplicité liturgique, d'une extraordinaire simplicité. Jugement d'existence, hein. Ceci est. Faut pas l'oublier. Orchestre, ceci est. Mon corps. La coupe de la nouvelle alliance dans mon sang. Affirmations qui relèvent de la sagesse de Dieu. C'est vraiment le fruit de la sagesse de Dieu. D'une sagesse qui vient du Père et qui est dans le cœur du Christ. C'est celle du Père et du Verbe et de l'Esprit Saint. Et qui prend possession du cœur du Christ pour être son testament. Et donc, si c'est son testament, c'est comme l'alliance qu'il réalise avec les hommes d'une manière ultime. On pourrait dire, voyez, en comprenant bien l'annonciation avec le fiat de Marie à la scène avec le don que Jésus nous fait de son corps et de son sang. Désiré d'un grand désir prendre cette Pâque avec vous. J'ai
selon l'ordre de la sagesse de Dieu, dans une théologie de l'économie divine, on doit comprendre le pourquoi de cela. Jésus n'a pas réalisé l'institution d'Eucharistie après la mort et après la résurrection. C'est très curieux tout ça, hein, parce que tout est ordonné selon un plan divin de sagesse divine. Rien n'est laissé au hasard. Et donc, il y a une pédagogie divine, de sagesse divine, qui implique une révélation. Et les moindres détails nous aident à pénétrer l'intention du cœur de Jésus. La hâte du cœur du Christ. J'ai désiré d'un grand désir. Manger cette Pâque avec vous. Il y a donc bien une hâte. Vous voyez, il y a la hâte de Marie. Il y a la hâte du cœur du Christ. C'est très étonnant, du reste, quand on essaie de comprendre dans la sagesse de Dieu cet acte libre de Marie, cet acte libre du Christ. Tous les deux pour réaliser la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance dans le cœur du Christ, c'est son testament. C'est assez extraordinaire, ça, vous voyez. Peut-être qu'on ne le voit pas assez. Un testament, c'est un acte ultime. C'est toujours très impressionnant d'assister à quelqu'un qui est conscient qu'il est au terme de sa vie et qui vous lit son testament et qui vous dit ses intentions dernières. Quand il s'agit de quelqu'un qui a de grosses responsabilités, quelqu'un qui a reçu des grâces très extraordinaires, quel était le testament de Marthe? Ce testament silencieux de Marie. C'est vrai, on aime bien savoir le testament de sa mère. Quelles sont ses dernières volontés? Quelles sont les dernières volontés du Christ? C'est le mystère de la scène de l'Eucharistie. Et nous ne creusons pas assez le mystère de l'Eucharistie dans cette lumière. Vous voyez, on voit la pratique de l'Eucharistie. On communie. Il faut communier. Attention. C'est beaucoup plus que ça. C'est un mystère qui nous révèle les intentions dernières du Christ sur chacun d'entre nous. Ses intentions dernières de Jésus sur nous. Et voyez l'alliance de la nouvelle alliance, c'est un testament. Parce que c'est ultime. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus d'autre alliance après. On ne peut pas dire que l'alliance avec Moïse, c'est un testament. Testament, c'est une pédagogie. Parce que c'est ultime, c'est dernier. Et en même temps, l'Eucharistie est une pédagogie. Il faut dire les deux. Mais c'est avant tout un testament. C'est avant tout le testament du Christ pour nous. Alors je voudrais m'arrêter quelques instants, vous voyez, sur ce qui me semble être la chose principale. Dès qu'on touche la sagesse de Dieu et les intentions de la sagesse de Dieu, on fait appel immédiatement à une attitude contemplative de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Et c'est cette attitude contemplative qui est la chose principale. Vous voyez, la foi est plus contemplative que pratique. souvent nous sommes mal éduqués. On ne nous l'a pas assez dit. Notre foi se traduit avant tout dans un point de vue pratique. Alors il y a des réactions de temps en temps. Oh, c'est pas la peine d'assister à la messe, c'est pratique. C'est... Attention, attention. La contemplation donne le sens à la pratique et ne supprime pas. Puisque c'est une contemplation chrétienne. Sainte Thérèse le savait très bien, la grande Sainte Thérèse, quand elle dit « Ne quittez jamais l'humanité du Christ ». Alors je dirais « Ne quittez jamais l'Eucharistie ». Puisque pour nous, c'est l'humanité du Christ. C'est l'humanité du Christ qui nous enveloppe dans tout notre cheminement. Ne disons pas « Ah, l'oraison, c'est suffisant ». Ah non, l'oraison me fait vivre de l'Eucharistie. Et l'adoration me fait vivre de l'Eucharistie. Alors ne séparons pas. Il faut unir ce que Dieu a uni. Et c'est vrai que les sacrements sont les sacrements pour sanctifier notre conditionnement humain sur la terre, de pèlerin. Dans le ciel, il n'y aura plus les sacrements. Il y aura encore le sacerdoce que tu es prêt pour l'éternité. Alors si on aura encore le sacerdoce royal des fidèles, c'est bien évident. Le sacerdoce ministériel ne sera plus que contemplatif. Parce que le sacerdoce du Christ est contemplatif. Il n'y aura plus beaucoup de pratique dans le ciel. Je ne crois pas qu'il y aura le cycle liturgique dans le ciel. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura une grande liturgie avec le cycle liturgique. On vivra l'éternité. Et on vivra l'éternité à travers notre humanité. Sanctifiée, complètement complètement sanctifiée et glorifiée. Il y aura quelque chose d'analogue à la liturgie. La liturgie de la Jérusalem céleste. Et au cœur de cette liturgie de la Jérusalem céleste, c'est l'agneau immolé. Et donc l'état victimal du Christ qui est glorifié et qui est glorifié pour l'éternité. Le Christ ressuscité ne meurt plus et il demeure victime. Et donc le sacerdoce, ce sera d'offrir la blessure du cœur du Christ. Et ce sera tous les chrétiens glorifié. Voyez, on vous a montré la distinction entre le sacerdoce royal des fidèles et le sacerdoce ministériel. Bien comprenez qu'au terme, les deux vont s'unir. Il n'y aura plus le rôle du prêtre faisant l'Eucharistie, disant la messe. Tous les fidèles offriront la blessure du cœur du Christ. Et le prêtre qui a reçu le pouvoir sacerdotal, ce caractère qui est éternel, sera entièrement porté par l'offrande de tous les fidèles. Ce ne sera plus un service, ce sera un sacerdoce contemplatif, uni à la contemplation. Et c'est ce très grand mystère des Chartreux qui disent leur messe en privé. Sainte Trinité. mais ça signifie rien du tout. J'ai entendu ça. Ça prouve qu'ils n'ont rien compris à l'Eucharistie. Je regrette. L'Eucharistie est premièrement le fruit d'une contemplation. La contemplation du Christ. Pour glorifier le Père. Alors tant qu'on est sur la terre, distinction de l'exercice du sacerdoce royal des fidèles dans l'amour, dans la contemplation. Et l'exercice du sacerdoce ministériel, je dis bien distinction des deux exercices, dans le ciel, il y aura une unité plénière et le sacerdoce restera éternellement celui des fidèles et celui du prêtre, mais selon un mode de gloire. C'est important de comprendre que les sacrements, c'est pour le pèlerin. Il a besoin de refaire ses forces. Il a besoin de panser ses blessures. Il a besoin de croître. C'est pour la croissance de l'amour, les sacrements. C'est pour la croissance de l'espérance et de la charité. C'est pour le pèlerin qui doit croître. Et Jésus, dans son testament, a ce double regard. D'une part, il regarde le Père. Et d'autre part, il nous regarde. On le sait. Jésus, dans sa prière de prêtre et de fils bien-aimé, chapitre 17 dans Saint Jean, demande au Père de le glorifier pour qu'il puisse glorifier le Père. Le mystère de la croix est premièrement une glorification du Père. Il glorifie le Père en s'offrant en holocauste d'amour, où tout est brûlé de ce feu d'amour et de la plénitude de ce feu d'amour. Tout est brûlé, l'holocauste. Tout est brûlé dans le cœur du Christ, dans l'humanité sainte du Christ. Tout est brûlé pour glorifier le Père. Voyez, la liturgie de Pâques, le feu nouveau, qui exprime ce qui est toujours en acte, actuellement, dans le ciel. L'offrande que Jésus fait de tout lui-même au Père, comme fils bien-aimé. Son sacerdoce est éternel. Il est actuel. Et l'offrande de la croix est actuelle dans le ciel. C'est pour ça que pendant toute la liturgie pascale, on n'oublie pas la croix. Et la croix est présente. Et dans l'ancienne liturgie dominicaine, il y avait une oraison de la croix pendant tout le temps de pascale. Pour bien nous faire comprendre que le mystère de la gloire n'est pas dialectiquement opposé à la croix, mais il assume la croix. Et il montre le caractère éternel de la croix. La sagesse de la croix est présente actuellement dans le cœur de Jésus et elle est vécue. Jésus glorifie son Père en s'offrant dans un état victimal. D'amour. Et en même temps qu'il glorifie le Père, il nous sauve. C'est le même amour qui glorifie le Père et qui nous sauve. C'est ça qui est admirable. On est sauvé dans la glorification du Père. C'est parce qu'il glorifie le Père qu'il nous sauve. sommes avec lui, entièrement offerts au Père. Quand Jésus nous sauve, il nous sauve en faisant de nous des fils bien-aimés du Père. Et le fils bien-aimé du Père, c'est celui qui glorifie le Père à la suite de Jésus. Vous voyez, puisque l'acte ultime du Fils, c'est de glorifier le Père. Donc c'est de s'offrir. Et Jésus est le premier-né. Il est le Fils bien-aimé. Et il nous glorifie en faisant de nous des agneaux immolés, des victimes offertes, des victimes d'amour, dans l'unique victime qui est lui-même qui s'offre. Le sacerdoce du Christ est un sacerdoce de fils bien-aimé, donc un sacerdoce d'amour qui glorifie le Père et nous sauve. Et les deux se tiennent et sont inséparablement unis. Alors, dans cette lumière, nous pouvons comprendre le testament du Christ. Parce que Jésus vit son testament à la croix. Mais il nous donne d'une façon symbolique, d'un symbolisme divin, sous ce signe particulier du pain et du vin consacrés, pour que le mystère de son testament soit toujours actuel. La commémoration, faites ceci en mémoire de moi, la commémoration. Et c'est le mystère de l'Eucharistie, ça. Le mystère de l'Eucharistie, c'est de nous montrer que le testament du Christ est éternel. Le testament du Christ, elle a été vécue à la croix. Son acte ultime, sa volonté ultime, c'est de s'offrir au Père pour le glorifier. Et c'est de s'offrir, offrir sa vie, offrir son corps en holocauste, verser son sang par amour pour le Père et pour nous. Son testament dans l'Eucharistie nous montre que toute sa vie, c'est de se donner au Père pour accomplir sa volonté. Et en accomplissant sa volonté, il nous sauve. Il nous fait passer de notre état de pécheur à un état d'enfant de Dieu. Il nous purifie radicalement et nous donne son amour pour que nous puissions vivre le même mystère que lui. Vous n'êtes plus des serviteurs, mais des amis. Alors, nous comprenons comment Jésus, pour rendre présent à travers le temps et les lieux, pour nous donner comme un signe vivant de son amour pour le Père et de son amour pour nous, Jésus, dans sa sagesse, sagesse qui vient du Père, puisque sa doctrine, c'est la doctrine du Père. Jésus, dans sa sagesse, sous la dépendance de l'Esprit-Saint, réalise cette nouvelle Pâque. Il prend du pain, il prend la coupe, prononce ces paroles de la consécration. Et ces paroles de la consécration, il veut qu'elles soient répétées et qu'il est pour chacun d'entre nous. Il prend du pain. Pourquoi ? Pourquoi le pain ? Il aurait pu nous donner une lettre. Comme il donne sa prière.
Sans parler.
laisse oublier les gestes. Parce que les gestes révèlent l'amour de Dieu pour nous. Regardez le début de la Genèse. Dieu a façonné le corps de l'homme. Dieu aurait pu dire, lève-toi. Corps de l'homme. Non, il l'a façonné. C'est un geste. Évidemment, c'est métaphorique parce que Dieu n'a pas de main. Il a bien plus que des mains. Dieu a façonné le corps de la femme à partir de cette torpeur qu'il a mise dans l'homme. C'est très beau tout ça. C'est un réalisme merveilleux. Et le dernier geste pour nous, c'est Jésus qui prend du pain. Ce pain n'est plus du pain. En réalité, en vérité, les apparences demeurent. Ceci, c'est la pudeur divine, merveilleuse, qui cache son don. Quand on aime intensément, on cache son don. Elles disent toujours ça, pas mon petit, je te mange, je t'aime tellement, je te mange. Dieu veut nous donner ce symbolisme pour nous faire comprendre que son amour est substantiel, à la différence de l'amour humain qui n'est qu'intentionnel. L'amour humain n'est qu'intentionnel parce que quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », c'est très très bien, oui, vous êtes très attentif, vous vous donnez à lui, mais quand même, vous restez vous-même. Tandis que l'aliment, il est donné jusqu'au bout. Il disparaît. Alors évidemment, saint Augustin nous le dit avec force, quand tu communies, c'est pas toi qui transforme le Christ en toi, en ta chair ou en ton sang. C'est le Christ qui te transforme en lui. Mais attention, c'est très juste, mais Jésus se donne. Et c'est vrai. Il se donne entièrement à nous, totalement à nous, pour nous transformer en lui. Et c'est lui qui prend l'initiative. Alors il prend du pain, on comprend très bien l'aliment le plus simple, l'aliment qu'on donne aux pauvres. On donne du pain aux pauvres quand ils ont faim. Et Jésus a pris ce symbolisme du pain pour montrer qu'il se donne aux pauvres qui ont faim et qui n'en peuvent plus et qui ont besoin du Christ pour pouvoir continuer leur route, puisque sans lui on ne peut rien faire, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il faut que nous comprenions chaque fois que nous communions, chaque fois qu'on est en présence de l'Eucharistie, cette parole de Jésus, c'est le pain des pauvres,
ça coûte un peu plus cher.